Bonjour et bienvenue au podcast Miné. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, ce sont des femmes et des hommes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, présidente de Rouillé, une agence de communication marketing dédiée à l'industrie. Mon invité aujourd'hui au podcast minier, Alain Poirier, directeur général par intérim de l'Association d'exploration minière du Québec.
Bonjour Manon.
Salut Alain. C'est la deuxième fois que tu mets au podcast ou trois?
Deux, je crois.
La deuxième fois dans le même contexte. Alain, hier, la ministre a annoncé un fonds d'investissement spécialisé dans le financement des sociétés minières. Tu pourrais-tu expliquer c'est quoi ce fonds-là puis l'impact que ça va avoir?
En fait, ce qui est intéressant du fonds, c'est que c'est une initiative nordique, on pourrait dire, des Eyuichi et James. C'est doté d'un budget de 17 millions. Ça va aider les entreprises, particulièrement les plus petites, à démarrer leur projet, à être sur le terrain. C'est sûr que ce n'est pas des sommes faramineuses, mais c'est un très bon incitatif pour les entreprises pour pouvoir débuter l'exploration. Et c'est ça qu'on cherche toujours à faire, c'est que les entreprises puissent aller sur le terrain, débuter l'exploration et après ça, amener à des découvertes.
Puis ça peut représenter quoi, les sommes?
C'était 17 millions qui étaient annoncés hier. Donc, une somme intéressante. C'était quand même un bon budget. Mais ce n'est pas des budgets de campagne, de grandes campagnes de forage. Ouais. Mais c'est faut commencer quelque part. Et c'est, je pense que c'est le bon endroit. Et ça va permettre aussi l'implication des gens localement d'avoir un fonds comme ça présent sur le terrain. C'est ce qui, je trouve, est vraiment intéressant.
C'est quand même une bonne nouvelle dans le contexte actuel. Je pense que la filière a connu une année assez difficile. Tu peux peut-être nous parler des enjeux, des défis qu'on vit présentement?
Oui, bien en fait, on voit un peu une certaine tendance entre les entreprises qui ont des projets plus avancés, qui vont chercher de bons financements, versus les plus petites entreprises qui ont de la difficulté à financer leur activité. On suit les financements pour se donner une idée de voir comment ça fonctionne. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que plus d'entreprises qui viennent de l'Australie et viennent faire des travaux particulièrement dans le territoire de la baie James, qui amènent leurs propres fonds. Mais c'est plus difficile pour les petites entreprises du Québec à obtenir du financement et donc à pouvoir aller sur le terrain faire des travaux d'exploration.
On voit beaucoup dans les médias, encore dans la dernière année, de l'information erronée, des perceptions du secteur. Je voulais te demander, c'est quoi qu'on fait par rapport à ces informations erronées-là, mais avant, tu pourrais-tu comme un peu expliquer aux auditeurs c'est quoi justement ces perceptions-là qui circulent présentement? Parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, puis les gens, même de l'industrie, semblaient surpris que ça circulait, cette information-là.
Oui, bien en fait, les... c'est comme si l'industrie était figée en 1942 à peu près. C'est souvent ce qu'on voit, ce qui sort beaucoup dans les journaux, dans les médias de façon générale. C'est une loi, la loi sur les mines est archaïque. C'est le Far West. Les gens vont, ils vont polluer nos lacs, ils vont détruire la forêt. Il peut pas avoir de claim sur des escarres. Tout ce genre d'enjeu-là qui est repris dans les médias par certains groupes également. C'est difficile de répondre à ça. Évidemment, il faut avoir une voix pour pouvoir lui répondre. Nous, on essaie dans le meilleur des possibles de répondre presque à tout. C'est pas toujours évident, mais la règle est toujours un peu la même. Il existe beaucoup de données au Québec, souvent qui viennent des gouvernements, soit le ministère des Ressources naturelles ou l'Environnement. Et ces données-là, on les retrouve pas dans les articles de journaux ou dans les interviews, puis tout ça. On est mieux, c'est comme le rôle du mauvais, la mauvaise minière internationale qui vient voler nos ressources versus quel est vraiment l'encadrement, quelles sont vraiment les façons de faire de l'industrie. Au Québec, il y a plus de 100 lois, directives, orientations qui encadrent le secteur de A à Z, et c'est pas parce qu'on manque d'encadrement, il y en a, OK? C'est souvent une méconnaissance des gens, un, et deux, ben un peu la peur aussi de ce que les gens connaissent pas. Dans les secteurs plus traditionnels, parce que les régions plus minières, il y a une meilleure compréhension, c'est sûr, les gens connaissent plus ça. Aussitôt qu'on sort de ces régions-là, ça devient un peu difficile. Il y a le phénomène du pas dans ma cour. qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas limité à l'exploration minière ou au secteur minier, ça arrive partout. En fait, ça s'applique à des écoles, à des garderies, à du logement social dans certains quartiers que les gens ne veulent pas avoir. Donc, là-dessus aussi, il y a vraiment un enjeu. Et ce qui est le plus difficile, c'est toujours le manque d'information, le manque de connaissances de comment un projet minier va se dérouler. Et les gens pensent que parce qu'il y a 300 000 claims, qu'il va y avoir 300 000 mines, mais ça n'arrive jamais de même. Le nombre de travaux à impact sur les claims miniers vont varier, mais c'est souvent 0,5 % par année où est-ce que des travaux sur des claims. En 2022, c'était, je pense...
Redis-le encore, 0?
0,5 %
ouais,
oui. C'était... En 2022, les statistiques nous disent à peu près 1300 claims qui ont fait l'objet de travaux avec ce qu'on appelle force hydraulique, là, donc une foreuse ou une pelle ou ces choses-là. Donc, il y a vraiment 280 000 claims qui n'ont pas fait l'objet de travaux. Mais les gens n'ont pas cette perspective-là. Donc, ils imaginent le pire, mais en même temps, ils ne connaissent pas ça. Ils ne font pas trop d'efforts pour s'informer. Fait que ça mélange un peu toutes les choses.
Ah, c'est certain. Il y a une bonne job de communication à faire de la part, oui, des associations qui sont là, mais aussi des entreprises. Quand on voit de l'information qui est erronée, je pense que c'est notre responsabilité, les gens du secteur, d'aller en avant puis d'en parler puis de le dire. Et attends un petit peu, là, c'est pas vrai, cette histoire-là?
Oui, exact. Mais en même temps, il y a beaucoup de données qui existent, comme je disais, au ministère, dans les ministères et... Les journalistes ne vont pas nécessairement aller chercher cette information-là. Nous, on trouve ça dommage. Puis ça, on dit, bien, l'information existe. Les données sont là. Vous avez juste à aller les vérifier. Mais bon, ça n'arrive pas nécessairement.
Dans la filière, le nombre de compagnies manufacturières, mais des fournisseurs, des équipementiers, ça commence à changer de portrait. On voit de plus en plus des compagnies d'intelligence artificielle, des compagnies technologiques. Comment tu vois ce changement-là pour la filière, toute l'innovation qui s'en vient, qui est là, en fait?
Oui, qui est là, en fait. Bien, c'est une obligation. Plus on va être capable de limiter l'impact des travaux sur le terrain ou auprès des communautés, mieux ça va être. En fait, c'est mieux au niveau environnemental, social, mais aussi au niveau des coûts. Si on est en mesure d'aller chercher le même type de données en générant la moitié des coûts avec la moitié des efforts, on va déjà avoir là gagné un gain. Ce qui peut être difficile au niveau de l'exploration, c'est que nos entreprises juniors n'ont pas nécessairement les ressources pour le faire. Souvent, c'est basé sur les fournisseurs de services, que ce soit en géophysique ou les entreprises de forage, qui, eux, doivent plus innover,
ouais,
versus les entreprises qui, eux, achètent les services, qui n'ont pas ces moyens-là. Les entreprises majeures, eux, ben, ils ont des budgets au niveau de l'innovation, sont capables de faire ça. Et jusqu'à un certain point, ben, des fois, ça va prendre des regroupements aussi, de mettre les gens ensemble et dire, bon, on va essayer d'innover, on va essayer de faire quelque chose de nouveau. L'idée, ben, c'est d'être en avant de la parade et pas attendre que la parade soit passée. Le taux de découverte, l'efficacité, la réduction des coûts, ben ça va passer par l'innovation.
Je viens de me rappeler la première fois qu'on s'est parlé, c'était pour Écologo. Alors, oui, ma prochaine question, après toutes ces années-là, on en est rendu où avec Écologo?
Ben, en fait, le programme va très bien. De mémoire, je pense que 22 ou 23 entreprises sont certifiées. Il y en a une dizaine en attente, en audit.
Tu sais que c'était pas le bon chiffre, Joannie, elle va écouter le podcast, puis elle va te reprendre. Hein?
Je sais. Donc, il y a environ 55 compagnies au total qui sont soit certifiées en attente ou en train de faire le processus. La bonne nouvelle, c'est que la certification va devenir nationale, c'est-à-dire une version canadienne devrait voir le jour au début 2024. C'est un côté qui est super intéressant. En fait, ça va donner un coup de main aussi à nos fournisseurs de services québécois qui œuvrent dans d'autres provinces. Et ça fait juste démontrer que nous, ben, on est un peu en avance au Québec au niveau de ces mesures-là, des préoccupations environnementales, sociales et économiques. Donc, c'est super intéressant. Le projet dure quand même depuis une dizaine d'années, mais là, on voit vraiment là, que ça va de l'avant. Les entreprises ont intégré le fonctionnement, le processus. Ils se posent pas nécessairement la question. Ceux qui sont dedans, ça va très bien, puis ils vont de l'avant là, assez facilement.
Mais là, si tu dis qu'on s'en va au niveau national, les compagnies qui sont déjà éco-logo, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent... Ils ne deviennent pas automatiquement national?
Oui, en fait, il va y avoir des... Il y a des ajustements. j'ai pas le nombre de détails, là, mais il va y avoir des ajustements. Ce ne sera pas une révolution pour les entreprises qui sont déjà dans le processus. Donc, ils vont pouvoir, eux, s'ajuster facilement. Il y a un bout qui appartient à UL. De quelle façon ils vont déterminer ce que c'est par province, par juridiction, par activité, les choses, là, je pense que ça leur appartient à eux de déterminer ça. Nous, on est là pour accompagner les entreprises, les aider à s'adapter, et c'est ça qu'on va continuer à faire.
Hey, merci Alain, c'était super intéressant. Bonne chance dans tes nouvelles fonctions aussi de directeur général. On est super contents. Puis au prochain podcast dans peut-être un an, deux ans.
Pas de problème, ça me fait plaisir. Merci beaucoup Manon.
Merci.
Au revoir.